La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Une société civile belge et européenne unie pour appeler à une Europe hospitalière. C'est l'intitulé d'une nouvelle initiative citoyenne européenne, l'ICE, un outil précieux pour les citoyens de l'Union qui souhaitent faire entendre leur voix.
Libre Ensemble, Pierre Schoenbrodt, Jacques Nizin.
Ce soir, c'est donc de justice migratoire et de pétition européenne que nous allons parler avec vous, Cécile van der Stappen. Vous êtes chargée de mission CNCD, spécialiste des migrations. Dans ce studio, également Hervé Parmentier, directeur de la cellule Europe Internationale du Centre d'Action Laïque. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Ensemble, nous allons évoquer ces barrières européennes construites à coups de partenariat avec les pays du pourtour méditerranéen pour empêcher les candidats à l'exil de se rendre en Europe. Mais nous allons parler aussi des arrivées des réfugiés qui n'ont jamais été aussi nombreuses que ces dernières années, plus d'un million en 2015, année record, et des centaines de milliers en 2016 et 2017, des chiffres qui peuvent donner le vertige, mais deviennent ridiculement bas lorsqu'on les regarde à l'échelle de notre continent. En 2018, Eurostat rappelait qu'à peine 7% des 500 millions d'Européens sont des étrangers. Et le chiffre diminue quasi de moitié si on cible les étrangers hors Union européenne. En chiffres, ça donne 19,8 millions. Pourtant, aux yeux de bien des États de l'Union, c'est encore trop. Alors, on traîne les pieds et on refuse d'accueillir, comme c'est le cas de la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, qui refusent toutes d'appliquer l'accord de répartition des réfugiés, alors même que c'est dans ces pays que l'on trouve le moins d'étrangers, moins de 1% en Pologne et en Roumanie par exemple. Alors je commencerai par vous Hervé, et avec cette question très générale, comment expliquez-vous ce paradoxe exprimé par les chiffres de la migration que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une Europe qui par la voix de ses responsables politiques nous donne l'impression d'être envahie, alors qu'on parle à peine de 3 ou 4% de notre population européenne?
Alors vous avez raison de parler d'un paradoxe, parce que entre l'état du dissensus politique au niveau européen, les positionnements des différents états, les positionnements des responsables politiques en général par rapport aux questions migratoires, le ressenti de la population, qui est tout de même un ressenti plus négatif que positif, même si les récents exemples de mobilisation citoyenne montrent à quel point la population peut être sensible et solidaire par rapport à la question des migrants, on voit qu'il y a un vrai décalage qui souligne à tout le moins tout l'intérêt de poser le débat sur la migration autrement qu'il ne l'a été jusqu'ici.
Alors au niveau des États, comme je le disais, on sent qu'on flirte sur cette vague populiste, même si je n'aime plus trop utiliser le mot. Est-ce que les institutions européennes et les responsables, je pense par exemple au grand patron de la Commission, Monsieur Juncker, est-ce qu'ils tentent de donner le change à tout ça?
Alors il y a une tentative, donc depuis ce qu'on a appelé la crise des réfugiés de 2015, vous avez rappelé les chiffres des candidats à la migration dans votre introduction, depuis 2015 et cette crise des réfugiés, la Commission européenne a mis sur la table une série de propositions qui s'articulaient autour de trois grands axes. Le premier, c'était la réforme de la politique d'asile en tant que telle. C'était notamment dans ce volet-là qu'on parlait d'efforts de répartition de solidarité entre les différents États membres quant à leur capacité d'accueil pour essayer de soulager un peu la vie des États les plus frappés, si je puis dire, par l'arrivée de migrants. On pense par exemple à l'Italie, on pense à la Grèce, mais d'autres pays également. Ça, c'était le premier axe. La réforme de la politique d'asile. Il y avait ensuite le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'était donc le renforcement de la fameuse agence Frontex qui depuis lors a été transformée en agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières. Et puis alors il y a toute cette politique à laquelle vous avez fait allusion de partenariat avec des pays tiers à l'Union européenne, ce fameux deal avec la Turquie et alors un certain nombre de partenariats avec différents pays africains. Tout ceci, en bout de course, amène à une situation où le nombre de demandes d'asile a chuté en Europe. Les chiffres ne sont plus les mêmes entre aujourd'hui et 2015. Mais à quel prix? Le prix, c'est évidemment des parcours migratoires autrement compliqués, avec une cohorte de drames, des violations invraisemblables des droits de l'homme sur les parcours migratoires de ces personnes. Donc on a au total une politique migratoire qui a voulu s'ajuster suite à la crise de 2015 pour un résultat qui est absolument dramatique au regard des droits humains, au regard finalement du prix payé, y compris en termes de vie humaine, par les personnes candidates à la migration.
Est-ce que ça veut dire que les institutions européennes et la Commission va dans le même sens, j'ai envie de dire, que les pays qui traînent la patte quelque part ?
Mais je pense que la Commission essaie de faire évoluer les choses. Tout le débat sur les quotas de relocalisation d'un certain nombre de migrants dans les différents États membres le démontre. Mais la Commission se heurte aussi à des résistances étatiques au Conseil des ministres de l'Union européenne. Et vous avez cité un certain nombre de pays pour lesquels la simple évocation de quotas apparaît comme un tabou absolu.
Mmh. Alors Cécile van der Stappen, vous utilisez votre loupe au CNCD, vous regardez un petit peu les dégâts ou les conséquences, pour utiliser un mot un tout petit peu plus neutre, de ces politiques européennes qui prennent en charge la migration. Quelles sont justement aujourd'hui les conséquences de ces politiques ? Est-ce qu'elles sont humaines ?
Si je peux faire juste un petit retour en arrière, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué l'idée de crise migratoire. Alors nous, on est assez précis en fait sur les termes qu'on essaye d'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas crise migratoire ? On dit plutôt crise de l'accueil. Parce qu'il y a vraiment eu un problème en effet de solidarité intra-européenne au niveau de l'accueil. Et il n'y a pas eu, si on prend vraiment un regard historique sur le très long terme, vraiment d'afflux massif inconsidérés comme on n'y en aurait jamais eu dans l'histoire. Quand il y a eu la crise du Kosovo, il y a eu aussi beaucoup d'afflux de personnes en un temps donné précis, et ces personnes ont été accueillies.
Voulez dire que quand même le choix des mots est important aussi dans cette histoire?
Bien sûr, parce que crise migratoire, ça voudrait dire qu'on est face à un événement qui n'a jamais eu lieu, qu'on ne sait pas gérer. Or, c'est plutôt une crise de l'accueil, parce que si on prend, comme je disais, un regard historique et qu'on regarde sur les 50 années à venir, on voit qu'en fait les flux, ils sont parfois plus grands, plus petits, mais ça dépend évidemment de la réponse qu'on donne en fait à ces mouvements. Et si l'accueil est bien fait, et s'il est prévu aussi en amont, on savait très bien ce qui allait arriver, notamment dû à la guerre en Syrie, on aurait pu gérer les choses autrement et ce serait passé quasi inaperçu en fait. C'est juste ça que je voulais dire. Alors les conséquences, comme vous l'avez dit, elles sont vraiment désastreuses. C'est non seulement l'esprit de la Convention de Genève qui est complètement mis à mal, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas poser les pieds en Europe, on ne peut pas faire exercer son droit d'asile, et donc tout l'esprit de la Convention de Genève de protection internationale ne peut pas avoir lieu. Ça, c'est une première chose. Et puis, on assiste surtout aussi à la violation, on pourrait dire aussi de l'article 13, de tout l'esprit de l'article 13 de la Convention universelle des droits de l'homme, où on dit que toute personne a le droit de quitter son pays si elle estime pour X raisons que son devoir et son envie de quitter le pays, en dehors même d'une protection internationale. Or là, à partir du moment où on met en place toutes les politiques d'externalisation, c'est-à-dire de faire jouer aux pays tiers le rôle de gendarme de l'Europe et empêcher le départ, l'article 13 est complètement violé et les personnes n'ont plus cette possibilité de partir. Donc l'externalisation des frontières, c'est vraiment un des axes principaux de la politique européenne. Il est vraiment basé sur deux choses, comme je disais, l'endiguement des personnes, mais aussi de mettre toutes les forces pour accélérer et augmenter les retours. Ça, c'est vraiment les deux points centraux de la politique d'externalisation. Et nous, les conséquences, on les constate tous les jours. Il y a des personnes qui retournent dans des pays qu'ils ne connaissent même pas, simplement parce qu'ils y ont transité. Et avec le système, c'est un peu technique, mais d'accord de réadmission, certains pays admettent de réadmettre les personnes qui sont en situation irrégulière, contrôlées ici en Belgique, et elles se retrouvent par ricochet dans des pays par lesquels elles ont simplement transité, qui ne sont même pas leur pays d'origine. Et alors, le cas le plus grave, c'est évidemment quand on est retourné dans des pays où il y a des dictatures, où il y a des violations de droits au quotidien. Et ça a été notamment mis à l'actualité avec l'affaire dite des Soudanais.
Est-ce que finalement, dans ce tableau assez noir que vous dressez, il y a des États qui se montrent plus ouverts que les autres ? Ou est-ce que globalement, tous, quelque part, traînent la patte ?
Non, il y a des différences au niveau des États membres, et on évoquait notamment est-ce que l'idée que la Commission suit ces États qui traînent la patte. C'est vrai que au niveau du mécanisme de relocalisation, qui était pour avoir une répartition des demandeurs d'asile au niveau intra-européen, on peut dire que la Commission a été plus positive, entre guillemets, que certains États membres. Mais c'est vrai que, de fût-ce que par leur situation géographique, on a affaire à des différentes réactions. C'est vrai que l'Italie et la Grèce, elles sont en premier plan, l'Espagne aussi. Ces pays doivent faire seuls face à l'arrivée, à la gestion, à l'accueil. Et à un moment donné, la coupe est pleine. Et c'est vrai que plusieurs fois, l'Italie a fait des demandes de solidarité au niveau intra-européen. Et on a toute une échelle de réponses. Oui, la Belgique fait un peu, mais pas tellement. La France fait un peu, mais pas tellement. La Hongrie, la Pologne ne font rien du tout. Les réponses sont en fait déterminées par les politiques gouvernementales qui sont en œuvre dans chacun des États membres. Mais on pourrait dire que d'une façon quand même générale et majoritaire, l'ambiance n'est pas à l'accueil.
Et on le voit, cette ambiance qui n'est pas à l'accueil provoque des décès en nombre lorsque les réfugiés tentent de passer, notamment la Méditerranée. L'OIM, l'Observatoire international des migrations, a chiffré le nombre de décès en mer pour 2017, quasi 3000 morts. Donc tout ça n'est évidemment pas sans conséquence. Je vous propose à présent une pause musicale qui illustre assez bien la situation complètement dramatique que nous connaissons aujourd'hui en Europe. Il s'agit de Tchéou, le rêve européen.
Je me promène autour du port, un sac à dos comme seul bagage. J'ai rien à foutre de vos conforts, pour moi ce qui compte c'est que je dégage. Je suis diplômé mais que crois-tu? Ici le salaire minimum est dérisoire. Et si j'ai survécu c'est grâce au seul espoir de vous rejoindre étant caché. Ça fait des heures que je patiente, j'ai bien du mal à respirer. Car sous le bus on est 40, c'est de Tanger que je m'éloigne avec le cœur un peu cassé. J'ai tant rêvé d'Espagne que pour le coup j'ai dû frauder. Ça fait des heures que je suis planté sous le châssis de ce routier. Vu la chaleur de ce moteur a fait de moi son prisonnier. Premier arrêt pour le chauffeur, je me faufile sous l'autocar, le tout dans la sueur et dans la peur de me faire voir, de me faire prendre. Après tout ça, j'ai trop souffert pour être ici. Personne ne peut comprendre, demande aux frères en Éthiopie comme seul espoir de la famille. J'ai tout misé sur mon départ, j'ai quitté mon pays pour commencer une autre histoire.
وربي معايا حبابي يا صحابي خليتهم مورايا راني نسافر وحدي.
Voilà seul, c'est mon destin, m'emmène ici, je dois le suivre. Une vie de clandestin ne permet pas de vivre libre. Je vis caché telle une souris. De façon digne, je dis merci à Dieu, car dans la foi, je trouve la force et m'endurcis. Je tiens le coup malgré la peur de me faire prendre, je dois bosser. Je taffe un peu partout, des fois c'est dur dans les marchés. Je pense aux miens quand ça va mal, et puis du coup, ça fait du bien. D'ici, je pense à vous, n'oubliez pas que je reviens. Ça fait des mois que je galère et qu'on m'exploite à tour de rôle. J'ai quitté la misère pour ne subir pire que des contrôles, c'est vrai j'avoue, des fois je pleure, mais quand t'es seul t'as beau verser, t'as beau mouiller de l'œil, y'aura personne pour te bercer. La vie se vaut d'être vécue dans la douleur ou dans la joie. Si moi j'ai survécu, y'en a qui meurent à Tarifa. C'est vers le ciel que je lève les bras, que les étoiles viennent me bercer. J'ai eu la baraka, mais j'aurais pu finir noyé. خليتهم مورايا راني نسافر وحدي وربي معايا حبابي اصحابي خليتهم مورايا راني نسافر وحدي وربي معايا.
Voilà Cécile, il semble que Tchéou décrit assez bien la réalité de cette volonté de passer vers l'Europe, et puis surtout montre qu'on soit réfugié économique ou qu'on fuit la guerre, les réalités aujourd'hui de la migration sont à ce point difficiles qu'on risque tout simplement d'y perdre la vie.
Mais c'est clair, c'est le syndrome de l'Europe forteresse. À partir du moment où on supprime toute possibilité légale et sûre de migrer, on sait que ça n'atteint aucunement la volonté des personnes de partir, donc le projet se fera. Mais si on n'a pas de voie légale et sûre, on prend les chemins de traverse. Et les chemins de traverse, c'est d'avoir recours aux trafiquants, de payer beaucoup d'argent, d'allonger le chemin et de prendre des risques au niveau de la violation des droits. Et ça peut aller en effet jusqu'au décès. Et vous disiez que l'OIM recensait déjà plus de 3000 personnes, mais c'est les personnes qu'on a retrouvées. Combien de corps sont perdus en Méditerranée? Et on estime qu'au niveau des décès, le nombre de personnes retrouvées, ou en tout cas qui ont perdu la vie dans le désert, est si pas plus nombreux. Et donc, on n'a pas de comptabilisation, en fait. Et il y a une impunité totale par rapport à ces personnes qui perdent la vie dues à des politiques migratoires meurtrières.
Alors, aujourd'hui, les associations qui œuvrent dans cette matière-là sont évidemment désespérées de cette situation. Vous avez décidé de vous coaliser pour tenter au mieux de changer les choses, mais en tout cas de symboliquement, quelque part, j'imagine, de marquer les esprits des citoyens européens. Comment vous allez vous y prendre ?
Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord la campagne qu'on a lancée depuis l'année passée, qui s'appelle la campagne Justice Migratoire, qui, en fait, est une campagne qui a axé sur la sensibilisation, mais aussi sur le plaidoyer. Et on demande la justice migratoire, donc ça fait tout de suite écho au droit international, l'application du droit international, mais aussi à l'idée d'équité, et notamment équité dans la mobilité. Ça, c'est au niveau national, et on a plusieurs axes que vous pourrez vraiment trouver sur les pages du CNCD 1111. On détaille vraiment ce que l'on demande au niveau politique et ce qu'on compte entreprendre les deux années à venir en termes de sensibilisation. Alors, on s'est dit qu'il fallait avoir un pendant au niveau européen. Et donc, on a été contacté par le Migration Policy Group, qui est un think tank, donc qui réunit des personnes qui pensent à une autre politique migratoire, mais au niveau européen. Et eux-mêmes ont fait la démarche de contacter des associations, des réseaux qui travaillent sur ce sujet dans différents pays européens. Et donc aujourd'hui, on a décidé de lancer ensemble ce qu'on appelle une initiative de consultation européenne. C'est, je crois qu'on en parlera par après au niveau technique et au niveau des objectifs, mais l'idée c'est d'interpeller les institutions européennes par rapport à leur politique migratoire et de leur faire entendre une autre voix, et notamment une voix de la société civile.
Alors ça, ça va être difficile. On a l'impression que dans ce contexte du moment, les citoyens eux-mêmes sont assez réticents à se montrer ouverts sur cette question-là. Je me trompe ?
L'idée de l'ICE, justement, c'est de montrer l'autre versant. Parce qu'on a l'habitude d'écouter plus les personnes qui sont une dizaine dans les Alpes à vouloir bloquer les personnes en mettant des petites barrières. Ça fait le buzz. Mais par contre... Bon, avec une moindre mesure, c'est vrai que les personnes qui sont actives dans le parc Maximilien, on en parle de plus en plus au niveau des médias, mais dans d'autres pays, c'est complètement tu. Par exemple, en Hongrie, il y a des individus, il y a des citoyens vraiment qui font tout pour avoir des actions d'hospitalité par rapport aux personnes qui traversent le pays, mais c'est complètement tu et c'est pas assez mis en valeur. Et l'idée de l'ICE, c'est de montrer que, justement, il y a un nombre significatif de citoyens européens qui sont pour une autre politique migratoire beaucoup plus accueillante, notamment. Et donc, si on reprend les trois axes de cet ICE, on veut en fait agir sur trois priorités. Je dirais plutôt, il y a deux axes. C'est faire appliquer le droit international, ça c'est très important. Et l'autre, c'est recentrer le débat politique migratoire au niveau de l'humain. Parce que trop souvent, c'est des nombres, c'est des chiffres, c'est complètement déshumanisé. On veut vraiment remettre l'être humain au centre en fait, des politiques et que les politiques soient basées sur les volontés et le ressenti aussi des êtres humains. C'est vraiment primordial. Et les trois orientations qu'on veut demander en fait, à cet ICE, les trois questions qu'on pose au niveau des institutions européennes, c'est arrêter la criminalisation de l'aide humanitaire et de l'hospitalité. Ce n'est pas encore vraiment le cas en Belgique, mais c'est déjà le cas en tout cas en France et en Grèce, où vraiment toute action humanitaire d'accueil en fait, peut être pénalisée. Mais on sait qu'en Belgique, avec tout le débat sur les visites domiciliaires, ça nous pend au nez. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est d'avoir justement... de soutenir les citoyens dans leur action d'accueil. On sait que pour le moment, dans le cadre, alors c'est encore de nouveau des termes un peu techniques, de la réinstallation, c'est le fait d'aller chercher des personnes qui ont déjà le statut de réfugié et de les amener par exemple en Belgique et que la Belgique fasse l'ensemble des choses pour leur intégration, etc., donc pour, sur le long terme. Et ça, on a remarqué que les citoyens pouvaient le faire. Ils le font déjà parfois. Mais ils ne sont pas du tout aidés financièrement, matériellement, pour faire cet accueil d'un an des personnes réfugiées. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'ils aient accès à des fonds publics pour faire cet accueil. troisième axe.
Rapidement, parce que le temps passe.
Donc, il y a la criminalisation, l'accueil, et puis c'est surtout, alors, par rapport à la violence aux frontières, des mécanismes de plainte indépendants et vraiment efficaces, que ce soit au niveau de la violation des droits des travailleurs, ici, migrants, on a entendu dans la chanson qu'il était corvéable à merci, ou que ce soit au niveau de l'agence Frontex, où là, vraiment, le mécanisme de plainte est une vaste farce, parce que c'est le directeur de Frontex, donc Fabrice Légéry, qui décide si une plainte est recevable ou non.
Alors, pour que ce texte ait du poids, il vous faut des signatures et pas un peu, 1 million.
Alors, il faut 1 million de signatures au niveau européen. Au niveau de la Belgique, il nous faut 15 750 signatures, mais on a un objectif beaucoup plus ambitieux. On vise les 100 000 pour vraiment montrer qu'il y a une opinion civile qui est tout à fait prête et demande. Reste surtout de changer ses politiques migratoires. Des États comme la France, évidemment, auront un quota plus élevé au niveau des signatures qu'elles doivent récolter, mais on pense qu'on y arrivera. Et pour ça, il y a tous des outils qui sont mis en place, il y a de la publicité, il y a un site qui est en place, et surtout, il y a des bénévoles aussi qui sont formés pour aller rechercher les signatures, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans la rue, etc. etc.
Alors Hervé, je me retourne vers vous, qui êtes plutôt spécialiste de la façon dont les institutions européennes fonctionne. C'est un bel outil quand même, cette initiative.
Avant de vous répondre, un mot tout de même pour dire que le Centre d'Action Laïque soutient tout à fait les trois revendications portées par la campagne menée notamment par le CNCD dans nos valeurs d'égalité, de liberté, de solidarité. Il est évident que ce qui permet de réduire la criminalisation de l'accueil, ce qui permet d'augmenter la perspective pour des réfugiés, de faire valoir leurs droits, ce qui permet d'accompagner la solidarité, de l'autoriser plus facilement, c'est évidemment des revendications qu'on partage pleinement de la part du Centre d'Action Laïque. Non, effectivement, ce n'est pas un exercice simple, ces initiatives citoyennes européennes. C'est un mécanisme d'ordre participatif, même si c'est plus un mécanisme de mise à l'agenda d'une question au niveau européen qu'un mécanisme véritable de décision participatif. Ce mécanisme existe depuis 2012 dans la pratique et a connu un succès variable. C'est dire que l'effort à mettre en œuvre pour réussir et la récolte des signatures et la phase surtout qui consiste ensuite à faire en sorte que la Commission fasse suivre cette récolte de signatures de propositions législatives concrètes, c'est une phase qui s'annonce difficile. Donc la mobilisation est importante parce qu'on voit effectivement que dans les expériences réussie de récolte de signatures récentes, aucune en réalité n'a débouché sur une véritable initiative législative de la Commission. Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut renoncer, que du contraire. Et je pense que la justesse des causes, la justesse des revendications portées ici devra naturellement y aider. Mais c'est évident que l'Europe n'est pas encore tout à fait outillée pour entendre de façon efficace la voix de ses citoyens au travers de ce bel outil de démocratie.
C'est-à-dire que les institutions européennes donnent un petit peu de la poudre aux yeux, jettent un petit peu de la poudre aux yeux à ces citoyens en disant, ben voilà, vous avez des outils, vous pouvez vous exprimer, mais en fait, on s'assied dessus, on est là ou ce serait excessif de le dire?
Ce qu'on constate, partons du constat, il y a environ une septantaine d'initiatives qui ont été lancées depuis la mise en place de l'instrument. De ces initiatives, 4 en gros, on réunit le million de signatures dans au minimum un quart des États membres. Et donc, et alors aucune de ces 4 n'a débouché sur une initiative législative de la part de la Commission. Il y a un cas particulier, c'était une autre campagne, c'était la campagne Stop TTIP CETA, qui elle avait explosé le nombre de signatures requis puisqu'on était au-delà de 3 millions. Là, pour d'autres raisons, la Commission n'a pas donné suite non plus. Donc, voilà, de là à faire un procès d'intention dans le chef des institutions européennes sur le fait de ne pas vouloir s'inspirer de la voix des citoyens, c'est un pas que je ne franchirai pas, mais il y a une réflexion qui est en cours d'ailleurs sur la façon de revoir cet instrument de façon à en faire un instrument plus facile d'utilisation pour les citoyens. Des propositions de révision sont sur la table, ont été mises sur la table de la part de la Commission l'été dernier. Voilà, la consultation est en cours, mais c'est vrai qu'il faudrait en retravailler certains des paramètres de façon à améliorer la perspective de succès de ce type d'initiative. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que les expériences récentes n'ont pas été tout à fait concluantes qu'il faut ne pas se saisir de cet instrument de démocratie participative. C'est juste impensable, quand on a des outils de cette nature-là à disposition des citoyens, de ne pas tenter, évidemment, de les utiliser.
D'autant qu'ici, on verra évidemment la façon dont la Commission européenne accueillera cette initiative si vous atteignez ce seuil du million de signatures. Mais si vous y arrivez, justement, déjà symboliquement, ce serait un message extrêmement fort, surtout dans un contexte où les politiques menées sont très difficiles et très fermées à l'égard des réfugiés.
C'est vraiment l'objectif. C'est, au-delà du symbolique, c'est d'avoir une campagne de sensibilisation. Ça nous permet vraiment, en expliquant quels sont les trois axes, en expliquant quelles sont les compétences de l'Union européenne, de faire en fait de la sensibilisation sur une possibilité d'une autre politique migratoire, parce que c'est vraiment possible et c'est tout à fait vu dans un angle pragmatique. Et puis après, oui, en effet, c'est symbolique. La plupart des dirigeants qui ont justement une volonté de mettre en place des politiques migratoires encore plus répressive, signale qui se base sur une opinion publique. Et c'est vrai que quand on fait des démarches même de plaidoyer au niveau belge, certains nous disent « on voudrait bien vous suivre ». Mais le problème, c'est qu'on a une opinion publique derrière nous qui n'est pas du tout en faveur de ce type de changement. Et donc, on est au service d'une opinion publique. Et donc, on est obligé de renforcer une politique migratoire répressive. Donc à partir du moment où on leur montre qu'il y a un nombre significatif de citoyens qui ne pensent pas du tout, vous avez les mains libres, allez-y. Hein.
On a le sentiment parfois que c'est un peu l'argument tarte à la crème des politiques. Hein. L'opinion publique, est-ce qu'elle est réellement aussi défavorable à un accueil où, je le disais en début d'émission, quand on regarde les chiffres, un accueil qui est loin d'être l'invasion dont certains nous parlent?
Bien sûr, l'Union européenne accueille seulement 6% des réfugiés au niveau international. C'est 0,2% de la population européenne, donc c'est rien du tout. La plupart des réfugiés sont accueillis par des pays qui sont déjà vulnérables, comme le Liban, la Jordanie, la Turquie. Et on n'est vraiment pas envahi. Au contraire, on n'assume pas ce qu'on pourrait assumer au niveau de notre potentiel socio-économique notamment.
Mais évidemment, j'imagine que les divisions entre pays sur ce terrain-là ne vont pas faciliter les choses. On a le sentiment qu'il y a autant d'avis que de pays en Europe.
Mais raison de plus pour porter le débat, c'est aussi ce que le Centre d'Action Laïque fait avec sa campagne « Pas de mur à nos frontières », mais c'est ce que la société civile, un peu partout dans le monde, s'acharne à faire. On peut par exemple mentionner une initiative récente qui s'appelle « L'Appel de Saint-Malo », qui, à partir de juristes, d'artistes, lance un appel pour une gouvernance mondiale de la migration. Gouvernance mondiale un peu à l'instar d'instruments de gouvernance mondiale qui ont été mis en place dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et de son articulation autour du principe de développement durable. Ici, l'appel de Saint-Malo appelle donc à une gouvernance mondiale des phénomènes migratoires autour d'un principe d'hospitalité, qui serait le principe à l'aune duquel on établirait les perspectives de migration, les possibilités, les rôles des États, les droits des migrants, la garantie que ces droits soient effectifs, et ainsi de suite. Donc on sent vraiment que la société civile est mobilisée un peu partout, et cette société civile se fait de plus en plus entendre. La campagne, donc l'initiative citoyenne européenne qui est lancée ici par le CNCD et d'autres, est une occasion supplémentaire de débattre du sujet et de faire valoir que les politiques migratoires telles qu'elles ont été conçues jusqu'ici mène à des impasses et qu'il est urgent de penser autrement les phénomènes migratoires et les réponses surtout qu'on y apporte.
Voilà, on ne le dira jamais assez, des solutions existent, les politiques menées ne sont pas la voie unique et on suivra évidemment bien entendu l'évolution de cette pétition, on tâchera d'en parler encore et encore, autant d'occasions pour justement faire avancer ce débat-là qui a tendance à faire du surplace en ce moment. Merci à tous les deux d'être venus dans ce studio.
Merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine pour une autre émission, un autre numéro du Libre Ensemble.
Enquête de sens
sur la première.